Morgan, Cadignan, Alexis Le Rossignol, Tanguy Pastureau, Tom,
bonjour.
Là, tout tatoué. Et aujourd'hui, notre invité, Jean-François Piège.
Tout tatoué.
Un bonheur pour moi d'avoir Jean-François Piège, déjà, parce que j'aime ce chef, ce grand chef, mais surtout le sujet de son livre de recettes, Zéro viande, zéro poisson. Mais c'est ma life.
T'as fait la préface?
Je suis vexé qu'il n'ait rien demandé. Mais ceci dit, dans sa préface, il démarre en disant, je ne suis pas végétarien. Ouais. Il démarre en disant, je ne suis pas végétarien.
Bah non.
ça serait. Mais il rajoute, j'ai voulu mettre à l'honneur tous les légumes, nos beaux légumes, les senteurs, les goûts, les cuissons, les sauces. On va en parler avec lui. Mais alors, comment faire un blind test sur zéro viande, zéro poisson? Alors, vous avez eu quoi comme... Regarde-moi, Alexis, vas-y. T'as quoi comme idée? Donne-moi une idée d'un blind test, d'un sujet de blind test. T'as pas?
Non, j'ai pas. Moi, j'ai sur les chanteurs très très vieux qui sont des légumes.
Ah, j'aurais dû y penser. Morgane?
Zéro viande, zéro poisson.
Sur la nourriture?
Le chiffre zéro.
Ouais, zéro ou les chiffres.
Exactement.
Morgane, c'est de zéro en héros.
Yes.
C'est quoi?
Hercule. Ah oui. Ah bah t'as pas voulu venir les... Hein? T'étais là hier, tu me dis. Qui chante ça?
Tom.
Ouais.
James Bond.
Ouais. Donc
John Barry's
Orchestra. Donc James Bond.
007.
Merci.
007.
Ah ouais.
C'est contre Dr. No, celui-là. Enfin bon.
Ouais, on connaît la musique.
Je crois qu'on l'a eu 23 ou 24 fois derrière.
En blind test?
Non.
Ah,
non, mais il est dans tous les James Bond.
Qui chante ça? Il n'y a pas de piège. C'est un mauvais genou.
C'est français?
Oui, madame, c'est français. C'est police française, oui.
Tanguy.
Oui.
Christophe, au hasard.
Pas loin, un pote.
Bah ouais. Un pote.
Ah,
Tanguy,
ont...
Jean-Michel Jarre.
Exactement, ils ont bossé ensemble.
Oh là là.
Avec zéro gravity.
Vous avez fait les mots bleus ensemble.
Exactement. Qui chante ça?
Jean-Michel Jarre.
Oui. Tanguy?
Oui.
The Weeknd?
Exactement. Quel talent.
Ouais. Heureusement qu'il est là. Aujourd'hui.
Comme hier. Avant-hier, il était pas là.
Mais je sais. Dès qu'il y a une sonorité un peu années 80 avec cette voix-là, c'est lui, quoi.
Mais c'est pas du tout années 80, The Weeknd, c'est maintenant.
Oui, une sonorité.
Ah oui, elles sont.
Oui,
c'est sûr. Ah, ça, c'est sûr, lui, là. Voilà. Il a écouté AA et Colette de Gang. Hein,
ouais,
c'est sûr, c'est sûr. Qui chante ça?
Voilà.
Bon, ça peut ressembler à tout.
Wow.
C'est français.
C'est une fille?
Oui.
Dalida, Suzanne.
Non, pardon. Oui.
Zéro défaut.
Exactement.
Alors là, bravo. 2 points.
Pourquoi?
Je sais pas.
Le titre.
Tu trouver.
Le titre et l'interprète.
Ouais.
Zéro défaut. Tu pèses mais tu te sens pas léger. T'as le porte-monnaie plein à craquer. Qui chante ça? Ça s'appelle tout simplement Zéro.
Tanguy? Eiffel?
C'est pas français.
Rage Against the Machine?
Non.
Tanguy, les Smashing Pumpkins.
Exactement.
Ah ouais.
Tanguy qui marche sur l'eau là ce matin.
Hein. This is God. Machine Pumpkins, attention, pour l'instant, Tanguy est en tête avec 3 points. Tom Villa, 1 point. Ouais. Leïla et Morgane, 1 point chacune. C'est le dernier titre qui rapporte 5 points à la victoire.
Oh là là, Morgane, Aristide.
Non.
Les Daft Punk.
Non, c'est un mec seul.
Je plaisante.
C'est marrant parce qu'on y va.
Ah, les BTS.
Je connais un disque, je connais pas.
Tanguy, Bruno Mars.
Pardon?
Bruno Mars?
Non.
Justin Timberlake.
Connu pour être en couple avec.
ASAP Rocky.
Avec qui?
Justin Timberlake.
Je crois avec.
Je crois
Rihanna.
Bah, ASAP Rocky.
Ah,
Chris Brown?
Oui. Chris Brown.
Oh non,
mais c'est son ex.
C'était
il y a
50
ans. Il y a 50 ans.
Je crois que c'est son ex.
Non. Non, on va écouter le replay, tu vas voir.
Moi, j'ai jamais su qu'ils étaient ensemble.
J'ai pas dit, je crois que c'est son ex.
Bah si, lui a tapé un peu sur la gueule,
ouais,
je crois.
Gentil,
oui, c'est ça. Oui, mais je ne suis pas
ça. Victoire de Morgane, Cadignan, sur le 0, ça lui va tellement. C'est formidable. Cette victoire.
Moi, je suis resté dans le thème avec 0 points.
Merci d'accueillir Jean-François Pierre.
C'est quoi le gagnant ? Bande originale. Avec Nagui.
On a joué avec 0 parce qu'il y a 0 viande, 0 poisson. J'ai dit en ouverture, Jean-François, qu'est-ce qu'il y a ?
Il a mis 0 points, c'est lui qui a gagné.
Je suis resté dans le thème, moi. J'avais toutes les réponses, mais j'ai dit bon.
J'ai raté la vanne.
Ce sera inversé.
Bienvenue, chef. Bienvenue. 0 viande, 0 poisson. J'ai dit en ouverture que j'étais mais tellement content que vous fassiez ce livre. Et en même temps, vous calmez tout le monde. En ouvrant le livre, vous dites « Je ne suis pas végétarien, mais j'ai envie de redonner les lettres de noblesse aux légumes et aux sauces. »
Eh oui, et on peut s'amuser poisson. Avec, c'est surtout ça en fait. Moi, l'idée, c'est que le légume, c'est pas une punition. Donc, comment on peut s'amuser ? Dans ce livre, il y a comment on peut le cuire simplement, comment on fait quelques classiques, et comment on peut s'amuser en... J'ai travesti des plats traditionnellement...
C'est ce que j'allais dire.
Voilà. Fait avec des protéines animales, en les faisant avec que des légumes.
C'est que l'appellation. Quand vous dites steak tartare sans viande et que en fait c'est un tartare de betterave, c'est juste la manière de préparer la betterave, mais ça n'a pas l'image, le look, mais pas la consistance ni le goût. Puis la consistance un peu aussi.
Un petit peu, peu. Il y a. Alors c'est qu'une pâle copie, hein. Mais ça le fait. Hein.
Ouais,
le lapin à la moutarde quand je l'ai fait. Ouais. Franchement, j'ai pris des carottes. Lapin qui mange des carottes. Je suis pas allé chercher loin, mais je trouvais que c'était.
Ah, c'était ça la vanne.
C'était ça la vanne.
D'accord. Je remplace lapin par quoi ? Par sa carotte.
Par sa carotte. Okay. Et en fait, j'ai fait une sauce à la moutarde dessus.
On se rend pas compte que les mecs font des vannes en cuisine en fait au début.
Incroyable. Et les carbonara, vous les faites comment ?
Non, mais l'escalope normande, visuellement, ça fait vraiment la blague.
Ça c'est bluffant.
Ouais.
Ça franchement c'est bluffant.
J'avoue.
Et le saumon aussi. Le saumon fumé remplacé par des potirons. Et
l'escalope normande, j'ai pas dit, c'est de la blette.
C'est de la blette,
Alors, est-ce que tout ça, c'est à la portée de nous tous ? Est-ce qu'il faut avoir le tour de main ?
Non, mais
moi, déjà une petite cuisine.
Il y a qui veut pas vendre son livre.
Deux, trois plaques de cuisson. Alors, je vais répondre simplement.
Certaines, oui.
Qui c'est qui a déjà mangé un bœuf bourguignon à la maison ?
Ah ben chez vous non, mais
c'est-à-dire chez vous,
à la maison non,
à la maison,
chez soi,
dans votre maison, oui.
Ah oui, j'en fais des bœufs bourguignons.
Oui. Et ben alors.
Ah si on sait faire
si on a envie de cuisiner, on peut transposer ces recettes là. Pour les faire uniquement végétales.
Alors la particularité des légumes, c'est qu'ils fonctionnent avec les saisons, contrairement aux viandes et poissons. Donc il y a quelqu'un qui se moque de moi, quoi, déjà. Toi, t'es plongé dans le livre, mais...
Ah ouais, j'adore.
Mais tu cuisines ?
Ah ouais, j'aime bien cuisiner, ouais.
C'est vrai ?
Ouais.
Mais t'as des ustensiles ?
Non,
il a ses mains.
C'est là où la magie opère.
C'était ça la réponse quand si on peut le faire à la maison.
Bien sûr.
Juste avoir une cuisine et avoir envie de le faire.
En ce moment, non, mais.
Et un petit savoir quand même, non ?
Ouais. Mais on a tous un petit truc, hein.
C'est quoi ton truc, Alexis ?
J'aime bien les plats en sauce. Les blanquettes, les choses comme ça.
Ouais.
Alors justement, à propos de sauce, il y en a qui peuvent s'accommoder, il y a alors tout un chapitre sur les sauces qui peuvent s'accommoder avec tout. On est soit avec des légumes, enfin on peut le mettre aussi avec...
Ouais, mais le beurre de foin par exemple, ou... Volontairement, j'ai pas...
C'est la crème de parmesan qui m'a rendu dingue.
Parmesan et légumes, c'est quand même un truc de dingue. Je suis d'accord.
Ça marche bien.
Ouais, ça marche
parmesan
bien.
Et artichaut, par exemple. On croule pas sur les artichauts hein, dans le livre.
Oui, parce que j'ai pas voulu.
J'ai pas voulu blesser un artichaut. Aucun artichaut a été blessé.
En revanche, il y a la.
Non, mais parce que cuire un artichaut, on se rend pas compte, mais
dur.
Non, c'est super long. Et 4 gros artichauts, faut une casserole comme ça.
Ouais.
Et en fait, quand j'ai fait ce livre-là, il est destiné pas aux professionnels, plutôt à tout le monde. L'artichaut, je l'ai mis un peu de côté parce que c'est beaucoup de travail, l'artichaut.
Le petit violet ? Non, petit violet, petite
à la poêle. Petit, c'est super.
Oui, mais
en friture.
Oui, mais sauf qu'on le connaît, c'est pas dans mes jeux, en fait.
D'accord, ok. Mmh. Oui, enfin, c'est l'artichaut, on cuisine l'artichaut.
Voilà. Et dans les fritures, j'ai préféré faire les beignets de courgettes.
Le tempura.
D'aubergine, parce que c'est plus simple à faire. Mais c'est vrai que l'artichaut frit dit à la romaine, c'est un truc de malade.
Il y a la fleur de courgette.
Ouais.
Et ça m'a au Mexique, ils mangent beaucoup de fleurs de courgette.
Alors cette recette là, je l'ai
Et ça revient à la mode.
C'est un petit souvenir et c'est pour ça que je l'ai mis dedans.
Ça c'est le sud, non, c'est la Provence,
ouais,
la
fleur
de courgette.
Il y a un restaurant en Nice qui s'appelle la Miranda et c'est un restaurant qui a 20 places qui est un tout petit peu plus petit que studio, la cuisine est au bout et le propriétaire s'appelait Justy. Et on est rentré un jour, le restaurant était vide, on était 4 jeunes cuisiniers, je travaillais à Monaco à l'époque, et il nous a dit non, c'est complet, parce qu'il nous prenait pour 4 jeunes branleurs qui allaient l'embêter, pardon.
Le restaurant était vide, le mec dit c'est complet.
C'est complet.
J'adore. Ça c'est Nice.
Voilà. Ça, c'est...
Bienvenue.
Et je lui dis, on est cuisiniers, on travaille là, et il nous a fait manger toute la carte. Et on a mangé cette tradition.
Aucune nourriture, vous avez mangé que la carte.
Okay, d'accord. Faut que
je vois plus. Mais c'est un bagong, c'est un ballon sauce. Voilà. Bon appétit. Tu vas me donner ce truc là, c'est moi qui vais appuyer.
Donc, je peux terminer mon histoire.
C'est compliqué ici.
Et en fait, il m'a donné la recette de ces beignets de fleurs de courgette. C'est une recette extrêmement simple. Et ça marche. Il fait fondre, il met de l'eau très fraîche dans juste de la farine avec un petit peu d'ail, du basilic et un œuf. Ça fait un beignet qui est dingue. C'est la recette traditionnelle d'une maman niçoise qu'on peut transposer assez facilement à la maison. C'est pour ça que je l'ai mis.
Et qu'on peut décliner aussi. Est-ce que c'est un réflexe chez un jeune cuisinier comme chez un grand chef de goûter un plat et de savoir exactement, rapidement en tout cas, comment ça a été fait? C'est-à-dire que vous êtes capable de décortiquer un peu de la même manière qu'un musicien peut écouter un disque en entendant ce que fait la basse, la batterie, la guitare, à quel moment, comment le mixage a été fait. Est-ce que la manière, le geste est une évidence pour un chef qui goûte un plat?
Je sais pas s'il peut trouver, mais en tous les cas, il devrait chercher, en tous les cas. Un bon chef, c'est quelqu'un qui cherche.
C'est ça? Ouais. Mais si vous rentrez dans un restaurant et si vous, là, en l'occurrence, il vous accueille, il vous fait goûter des plats, après, vous lui posez la question de comment vous faites, ou en le voyant, en voyant la texture, en voyant comment ça a été élimé, comment ça a été mis en julienne.
Ouais, culturellement, c'est extrêmement intéressant. Enfin, la cuisine, elle s'apprend par la transmission et elle s'apprend aussi en mangeant et en réfléchissant à la nourriture à laquelle on a.
Et un chef n'est jamais propriétaire de sa recette.
Jamais.
Jamais. Il n'y a pas de droit d'auteur.
Il n'y a pas de droit d'auteur.
Non, c'est fou.
Juste sur le nom.
Il y en a pour la musique. Ah, sur le nom.
Le nom. Si on dépose le nom, si le nom n'est pas déposé.
Le mec a déposé macaron, c'est à lui.
C'est à lui.
Oui, mais le macaron est à lui, mais pas toutes les.
Mais pas la recette du macaron.
Voilà. Non, parce qu'en fait, les déclinaisons sont pas possibles.
Ah ouais.
Alexis.
Et sur des basiques comme la purée, vous sauriez reconnaître à l'aveugle celle de vos confrères, par exemple?
Il y en a une qui est extrêmement célèbre.
Robuchon.
C'est celle de Robuchon.
Oui, mais la vôtre, en fait, elle met 500 grammes de beurre. Pour
oui,
un
mais
kilo
regardez
c'est
à la
énorme.
Fin.
C'est comme
je ne sais plus dans la mise en page.
Ouais.
J'explique l'idée qu'un cuisinier célèbre, je ne sais pas si ça a été zappé ou pas, mais
en mettait autant.
Voilà, on peut en
autant
mettre
de beurre
autant
que de
ou la moitié.
Et vous évoquez Robuchon en disant ça?
Ouais. Bah c'est ça, Robuchon, ouais. Il en mettait autant
que de terre que de beurre. Et c'est vrai que quand on l'a goûté.
Si.
C'était dingue.
Non, mais je comprends, mais enfin, on en mange une fois, quoi.
Non, je vous assure que non.
Non. C'est ça qui est fou, c'est qu'on en mange pas une fois.
Non, mais moi, je parle pas du goût. Je parle de la santé.
Non, mais au moment où tu goûtes ta pomme de terre, tu dis pas c'est mauvais pour la santé.
Non, mais
tu dis c'est bon.
Non, je reprends ce que j'ai dit. On n'en mange donc pas tous les jours. On en mange de temps en temps de cette purée-là avec
autant de beurre.
Ah oui, tu fais pas purée saucisse tous les soirs.
Ouais.
Ah, voilà, c'est écrit pour une purée très riche et très onctueuse.
Ouais. Et on est en 2022 et c'est formidable que il y a 20 ans, ça aurait été un livre de science-fiction. Mais est-ce qu'on est encore obligé de mettre des noms qu'on connaît pour rassurer les gens sur les recettes? Pourquoi on ne crée pas de nouveaux noms, de nouvelles recettes? Par exemple, le tartare de betterave, est-ce qu'on n'appellerait pas ça autrement? Alors, non, mais ça, c'est le jeu. Hein.
Oui, bien sûr.
C'est le jeu que j'avais voulu prendre. Après, par exemple, moi, au grand restaurant, évidemment, j'essaye de me sortir tout ça. Tout ce que je fais au grand restaurant ne se retrouve dans aucune des recettes.
Oui, mais en même temps, tartare de.
Oui, tu visualises.
C'est sûr. Tu sais la consistance dans laquelle tu vas être.
Mais
quand tu vois carpaccio d'artichaut, tu comprends que c'est des petites lamelles.
Non, mais ça, j'entends.
Mais
effectivement, c'est par exemple ces escalopes à la normande, etc.
Ouais.
Où là, pour le coup. Ah oui, on aurait pu dire côte de blé panée, jus de champignon à peine crémé.
Ouais.
On aurait pu dire ça.
Mais aussi.
Mais le jeu était pas là.
Bien sûr, non, mais totalement.
C'était le zéro.
Alors, on parle du nom. Mais il y a aussi le visuel qui est extrêmement important, c'est-à-dire que la pizza de pois chiche, en l'occurrence, on a vraiment l'image de la pizza, c'est-à-dire que si on la voit comme ça, on ne sait pas de quoi elle est faite, et c'est peut-être ça aussi le jeu, c'est-à-dire de retrouver des codes, puisqu'on commence, on commence à manger avec les yeux, avant même de goûter quoi que ce soit, on voit un plat, et c'est ça qui ouvre l'appétit.
Et puis il y a quelque chose qui est en train d'arriver, ça fait... Puis je vais aller dans le sens qui va plaire à beaucoup de monde autour de cette table.
Tu veux dire chez les bobos de France Inter? Vas-y.
Ça fait 20 ans que j'entends dire qu'il n'y aura plus de la protéine animale pour tout le monde. Moi, très honnêtement,
c'est pas que nous qui le disons. C'est
non, mais j'avais pas compris comment. Okay. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Mmh. Avec certitude. Donc c'est vrai que pour certaines personnes qui ont envie de continuer à manger certaines choses, peut-être que de les travestir ou de les transformer... ceux qui ont toujours envie de manger des tartares avec du végétal, Eh ben, c'est une partie de la solution.
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le fait qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, mais il y a le fait aussi que ce n'est pas forcément bon pour la santé, et c'est un ex-viandard. Et tu sais à quel point je mangeais de la viande, où on n'est pas obligé de manger de la viande matin, midi et soir. Or, le réflexe de se lever en faisant œuf bacon le matin, un bon steak à midi, et puis le soir, on se fait un petit carpaccio.
Mais comme c'est pas bon de manger
pas bon
que,
pour la santé, comme
que des légumes racines. Que des légumes racines en permanence, c'est pas bon parce que c'est que du sucre. C'est pas bon de manger que du poisson sur certaines choses. Voilà.
Zéro viande, zéro poisson. On va continuer d'en parler. Vous avez compris à quel point ça nous avait passionné. Signé Jean-François Piège. C'est chez Hachette Cuisine. C'est ce qu'on appelle un très beau livre. Ouais, les photos sont dingues
aussi. Avec le pas à pas des recettes, on n'a pas expliqué parce que les recettes, elles sont pas livrées comme
non,
ça.
Mais on a dit qu'on le ferait tout à l'heure.
Moi, ça me rassure. moi, ça me rassure. Je le dis tout de suite. Il y a plein de photos. Comme ça, je vois où j'en suis.
On est là jusqu'à
midi. Si je suis propre. Et voilà.
Je suis propre.
Ouais, mais moi, ça me.
Et voici Morgane Gadignan, et elle vous aime pas, Morgane.
Jean-François Piège, je vous aime pas, mais je vais pas encore refaire la blague du chef qui vient dans l'émission sans rien apporter à manger pour nous, parce que honnêtement, ça me fait même plus rire, quoi. Non, mais vous ouvrez un restaurant à chaque changement de lune, mais mettre un petit coq au vin dans votre caouet là pour venir ici, c'est trop demandé, quoi. Vous franchement, mais regardez-moi, je suis maigre. Pardon, mais les gars, j'ai la peau sur les os, quoi. Bon, j'ai pas dit combien de couches de peau, mais quand même, vous avez peut-être des étoiles sur votre tablier, mais vous en mettez pas dans mon cœur, quoi. Bref, il est 11. Bref, il est 11h30 et j'ai faim, si c'était pas clair. En plus, on s'est déjà beaucoup engueulé, vous et moi. Vous le savez pas, mais deux, trois fois dans ma cuisine, j'ai pas été tendre avec vous, quoi. La dernière fois, vous êtes venu pour nous présenter le grand livre de la cuisine française, recettes bourgeoises et populaires. C'était le 5 février 2021. J'ai raté une recette depuis, à la première étape, et je n'ai plus jamais rien cuisiné. Ça fait plus d'un an que je mange ma frustration, et je peux vous dire, ça me nourrit très très bien. Puis, la vraie recette populaire, au fond, est-ce que c'est pas un peu de commander un kebab en se disant que tant pis? J'aimerais cuisiner plus, mais j'ai du mal avec les livres de recettes, je trouve qu'ils parlent mal, les livres de recettes. Genre, c'est quoi cette insolence? Couper lessive en petits déjà, tu me donnes pas d'ordre, en fait. Si je coupe pas lessive, tu vas faire quoi? Tu sais que t'as de la colère en toi le jour où tu t'embrouilles avec une poêle. Ah bah, y arrive, hein, Jean-François Piège, à faire revenir des oignons. Moi, j'arrive même pas à faire revenir mon ex, putain. Faudrait que j'essaie au vin blanc, ça va?
Elle est facile,
mais pas comme vos recettes. Et je veux être honnête, c'est faux. Votre cuisine est populaire, justement, et vous démocratisez une manière de bien manger en l'expliquant et en la rendant un peu plus accessible. Parce que parfois, même si au final, quand tu vois le résultat, la recette a un peu changé, ça peut être très bon quand même. Tu m'entends, Guillaume ? Aujourd'hui, vous venez pour votre nouveau livre « Zéro viande, zéro poisson ». Vous aviez déjà écrit « 100 gras ». La prochaine étape, c'est un livre sur 100 pages sur le jeûne. Alors, il y a une page qui explique « Pour jeûner, c'est simple, asseyez-vous et ayez le seum ». Dans ce nouvel ouvrage, vous revisitez 50 façons végétariennes. Donc, Nagui qui accueille Jean-François Piège pour un livre sur des recettes végétariennes, ça va l'entre-soi, là ? Bon, ça vous dérange pas, là, la grande messe du prosélytisme ?
C'est vrai qu'on aurait pu le faire entre nous, on a voulu partager.
Les gars, si chacun y va de prêcher sa petite paroisse, on n'a pas fini. Est-ce que vous voyez Leïla recevoir le gérant d'une romerie? Bah non, voilà.
Moi, je voudrais des explications. Hein.
En tout cas, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de végétariens et que ça va devenir de plus en plus facile de l'être et qu'on va pouvoir se faire plaisir sans manger d'être vivant, parce que longtemps, quand t'étais végétarien, ton plat, bah, c'était l'accompagnement du plat avec de la viande. Moi, j'ai un pote qui est végétarien depuis 2010 et à l'époque, quand il disait qu'il mangeait pas de viande, la première réaction des gens, c'était bah pourquoi tu fais ça alors qu'il y avait un veau en train de faire un autre père en arrière-plan, quoi. Même Nagui, il a mangé tellement de pâtes, c'est pas pour rien qu'il ressemblait à une fusilli, quoi, depuis toutes ces années. Donc que des grands chefs montrent plein de manières différentes de rendre la chose facile, amusante et surtout bonne, je trouve que ça participe à un mieux dans la marche du monde. En même temps, moi je dis ça, mais mon petit déj c'était une cuisse de yak, donc j'ai dit que ça marchait, que ça participe à un mieux dans la marche du monde. J'ai pas dit que je marchais moi-même.
Merci Morgane Gagné.
Et Morgane Cadignan qui sera ce soir et samedi à la Fontaine d'Argent avec son Provence et à partir de 23h au Macumba.
Il y a des restaurants VG. Alors ce qui se passe souvent dans les restaurants quand vous dites dès le début je suis végétarien, généralement le garçon vous répond ah mais pas de problème, on a du poisson. C'est le réflexe immédiat parce qu'on se dit végétarien on n'aime pas la viande. Or là, en l'occurrence, pour en revenir au fait qu'on ne mangeait que les accompagnements à un moment, là ça devient le plat principal. L'autre souci, c'est on se demande souvent si je suis végétarien ou si je mange ces recettes, je vais avoir encore faim derrière. Je serai pas sevré, rassasié. J'aurais pas le sentiment d'avoir mangé, ce qui est totalement faux.
Ah oui, je pense. Parce qu'en fait,
déjà il y a une question de quantité.
Ouais, une question de quantité.
Qui se pose ça, manger du pain.
Non, et puis il y a beaucoup de légumes qui ont beaucoup de protéines quand même.
Alors il y en a qui sont plus longs à cuisiner. Le pois chiche, il est long.
Le pois chiche. Ouais.
C'est long. Il y a 12 heures avant.
Alors, c'est pas un légume, c'est une légumineuse. Donc,
Oui, mais le pois chiche, c'est extrêmement
beaucoup de protéines.
Bon,
ouais. Beaucoup de protéines.
Ouais. Et en légumes, je trouve beaucoup de protéines.
Oui, ouais, et en légumes qui ont beaucoup de protéines, il y a quoi comme légumes?
Bah, beaucoup de légumineuses,
lentilles. Dans les associations avec les riz.
Et quand on cherche, nous, on a trouvé un producteur de lentilles juste à côté de Paris qui fait des petites lentilles beluga.
Ouais.
Ces petites lentilles qui ressemblent à des petits grains de caviar, c'est dingue. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est en train de naître, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de producteurs qui sont en train aujourd'hui de réintroduire des choses qui venaient de, enfin, j'allais dire, de toute la planète.
Mais pourquoi il faut les faire, pardon, tremper 12 heures?
Digeste.
Non.
Quoi non? Bah si, vous l'écrivez. Ouais. Faites tremper les pois chiches dans un bol d'eau pendant 12 heures.
Oui, mais je dis non parce que...
Non, c'est l'assistant qui a écrit.
Non, voilà. Parce que, pardon, la cuisson, je l'ai fait traditionnelle, mais j'allais vous délivrer un petit secret. Si jamais vous les faites cuire à la cocotte minute, vous savez, ce vieux truc qui traînait dans tous les placards, ça vous évite parfois de passer trop de temps à cuire.
Ouais.
D'accord.
Bon, après, on peut les faire tremper la veille.
Okay. Oui, après, si on a le temps, on les fait tremper la veille, on les cuit dans une casserole.
Après, la casserole, c'est 3 heures aussi de cuisson. C'est-à-dire que
c'est pour ça que je disais à cocotte minute, c'est un avantage, c'est que on peut réduire
de moitié
ou plus. Ouais. Plus.
En fait, il faut bien savoir avant qu'on va les manger. Quoi. Il faut vraiment être sûr.
Faut s'organiser. Mais ça, c'est un peu la base de
la cuisine.
De la cuisine, il faut bien s'organiser avant. Mmh. On gagne beaucoup de temps après.
Et on mange mieux du coup, plutôt que de se ruer sur quelque chose qui est
zéro viande, zéro poisson. Jean-François Piège, 50 recettes. Alors toi, t'as aimé les photos et les explications?
Moi, j'aime les explications.
C'est parce que c'est simple.
Parce que je suis nulle en cuisine.
Scolaire, mais au bon sens du terme.
Voilà, parce que je suis vraiment.
C'est pour ça que je.
Voilà, je suis livresque. Moi, il faut me dire ce qu'il faut faire. Alors en plus, pour que la recette soit réussie ici.
J'adore cette recette. Ouais. Cette recette, elle est.
Les goujonnettes.
Ouais. Et quand j'ai fait ça, je sais pas pourquoi c'est venu comme ça. On était en train de faire des goujonnettes de sol parce que
c'est le principe.
C'est le principe. Et il y avait des asperges qui traînaient. J'ai pris une asperge, je l'ai panée comme la sole et je l'ai goûtée. Et c'est vrai que c'était, mais je veux pas dire que c'était un pastiche où on était presque dans la même texture, mais il y avait l'asperge, elle est incroyable. Et c'est une recette que je mets dans un restaurant.
Et j'aime aussi l'idée que c'est beau. Donc ça donne envie de le manger.
Ah, c'est ce que j'ai dit, c'est d'abord les yeux. Hein,
et donc, c'est bien qu'il y ait des photos pour voir le pas à pas pour la découpe, pour faire une sorte de fleur de céleri, par exemple. Bon, moi, si on me dit on fait une fleur de céleri, c'est foutu, hein, on n'y arrivera jamais. et en revanche, là, pour le coup, avec le pas à pas, on voit vraiment par quelle étape passer. Mm. Et c'est un peu rassurant, surtout quand on est mauvais, quoi.
Les recettes de Jean-François Piège sont faciles à faire. On a l'impression comme ça au début, quand on lit, on dit mais je vais jamais y arriver. Mais en fait, c'est très mathématique et j'allais dire mécanique. Après, on peut l'adapter à son goût en disant
je
mets plus de ci, plus de ça. Mais c'est pas si compliqué que ça. En croûte, par exemple, avec du sel, c'est vraiment le truc le plus simple et qui permet de préserver le goût du légume et sa texture.
Parce que tout ce qui part
en croûte, casser la croûte, quoi.
Ouais.
Tout ce qui part à l'extérieur dans une cuisson quand on met de l'eau, reste à l'intérieur du légume. Et c'est 10 fois meilleur. Au grand restaurant, je sers un concentré de céleri. C'est un céleri qu'on a cuit et qu'on presse. On ne récupère que l'eau de végétation. Mais c'est un goût de fou. Et le céleri, chaque fois qu'on dit céleri à tout le monde fait... Comme ça, on a l'impression... Pardon, ça se voit pas à la radio.
On se bloque. Quoi.
On se bloque.
En disant, je vais pas y aller.
Ouais. Et en fait, chaque fois que les gens le goûtent, ils disent, mais c'est dingue. Parce que
mais même cru, c'est bon, le céleri en salade.
Moi, j'adore.
Bah ouais.
Moi, j'adore. Mais cuit, quand on parle de céleri cuit, les gens, ils sont pas...
C'est comme le fenouil. Moi, je le préfère cru que cuit aussi, le fenouil.
Cuit dans l'argile.
Alors ça, j'ai pas fait. Ça, j'ai pas fait.
De fou. Et on le voit. Ce que j'aime dans cette recette, il y a le dressage. Il est pas extraordinaire. C'est un céleri qui est coupé en, un fenouil qui est coupé en tranches. Et c'est extrêmement bon, vraiment.
Zéro viande, zéro poisson, Jean-François.
C'est rigolo.
En plus, 50 recettes végétales et gourmandes chez Hachette Cuisine. Voici Alexis Le Rossignol et son bœuf bourguignon.
Son surnom sur Tinder. Bon,
alors, bonjour à tous.
Bonjour Tatoua.
Ça va bien, vous allez bien?
Très
vedette.
Oui, oui.
Toujours dans un chenou. Il y a quelque chose qui rend très heureux, messieurs, dames, c'est de réussir à réparer un truc alors que t'es pas bricoleur. Un peu comme réussir un plat alors que t'es pas cuisinier. Qui plus est, si ce que tu réussis à réparer, c'est une chaudière. Je vous dis ça parce qu'hier, j'ai réparé ma chaudière et je suis
carrément
fier et content. Quoi. J'arrive à un âge où je sais qu'il y a certaines choses que je ferai jamais plus dans ma vie. Parce que j'ai passé l'âge. Longtemps, j'ai été tenté d'essayer le skate, par exemple. Souvent, je vois des skateurs, je me dis, eux, ils vivent, quoi. Ils sont là du matin au soir, ils sont tout maigres parce qu'ils mangent pas. Ils tentent inlassablement de répéter des figures qu'ils ratent 8 fois sur 10, mais ils ont la pêche, quoi. Mais j'ai jamais franchi le pas, et désormais, c'est trop tard. Le skate, c'est pas un truc que tu commences quand tu emploies le mot punaise. Et c'est triste de se dire qu'on va plus pouvoir essayer ça, quoi. Mais maintenant, je m'en fous, j'ai réparé une chaudière. Et je pense que toute personne a besoin d'une chaudière dans sa vie, quoi. C'est pas une métaphore, hein. Vraiment, c'est une vraie chaudière, quoi. Vieillir, c'est peut-être ça, comprendre qu'il y a des trucs que t'as jamais fait, qui t'ont tenté à un moment donné, que t'as raté le coche, mais qu'il y a une chaudière qui t'attend quelque part et qu'elle compensera ça. T'as jamais fait de piano et tu penses qu'il est trop tard? Eh bien, c'est vrai. Mais sache qu'une chaudière t'attend. T'as jamais couru? C'est pas grave. Tu peux envisager la marche. La marche, c'est la chaudière de la course à pied, quoi. Moi, depuis 2 ans, je pratique la marche, le même sport que mes parents. Et ils me battent, mais c'est pas grave. Parfois, je pense à vous, Nagui. Je me dis, il est beau, il a tout réussi, il a le numéro de Pascal Obispo. Mais a-t-il trouvé ses chaudières? Ces petites choses qui le meuvent encore. Voilà ce qui s'est passé dans ma tête hier matin quand j'ai vu que ma chaudière était en panne. Je me suis dit, t'as pas connu l'adrénaline du skate? C'est pas grave. Des étincelles, du gaz et un brûleur s'offrent à toi. Une douche chaude ou la mort, voilà un beau défi, quoi. Et je suis là ce matin, ce qui veut dire que ça s'est bien passé, quoi. Le tout grâce à mon courage et au site forumchauffage.com aussi.
Forum. Ça, c'est bien, ouais.
Est-ce qu'il faut que je vous parle de forumchauffage.com?
Ah bon?
Et non, vous n'arrivez pas à me censurer, au prétexte que le forum chauffage.com est difficile à prononcer déjà et n'intéresserait personne. Je connaissais pas, moi, forum chauffage.com. J'ai tapé problème chaudière dans Google et je suis tombé sur ce site. Un site où des gens s'entraident pour réparer des chaudières. Oui. Simple, efficace, t'arrives pas là par hasard. Et c'est là que j'ai réalisé qu'une partie des Français pensent que réparer sa chaudière soi-même, c'est une bonne idée, et qu'une autre partie de la France l'encourage à le faire. C'est des kamikazes et leurs idéologues. Forumchauffage.com, c'est des milliers de questions posées par des gens qui se réveillent un matin sans eau chaude, et des milliers de réponses hyper précises de gens qui ont de l'eau chaude et qui s'appellent Patrick, Alain, Luc ou Philippe, et qui les aident gratuitement, quoi. Vous doutez de l'humanité, allez sur forumchauffage.com. Il y a encore sur cette planète de la bienveillance et du don de soi, et ça fait du bien, quoi. Le problème, c'est qu'on n'en parle pas. Je pense que Léa Salamé et Nicolas Demorand reçoivent trop souvent François Hollande dans la matinale et pas assez le rédacteur en chef de forumchauffage.com. Peut-être que ça va changer avec la nouvelle direction, j'espère en tout cas, quoi. Parce que j'aurais aussi besoin d'une dernière info. En fait, j'ai pas réussi à remettre le capot de ma chaudière, qu'on appelle Carter, oui, dans le métier. Voilà. Philippe a dit, c'est pas un capot, c'est un Carter. Du coup, maintenant, elle fonctionne, mais entre moi et les flammes, il n'y a plus rien. C'est joli, j'ai l'impression de regarder un mini incendie en prenant ma douche, quoi. J'ai juste peur qu'un jour, j'ai trop de chauffage d'un coup et que ça fasse boum. Si c'est le cas, soyez pas triste pour moi, en tout cas. Rappelez-vous que j'étais heureux, j'avais réparé ma chaudière. Bonne journée à tous.
Merci. C'est beau.
Alors, je sais pas la différence entre chaudière et chauffe-eau.
Chauffe-eau, c'est, ça fait que l'eau. Chaudière, ça fait tout le, tout le réseau de chauffage. On est au mois de mai, t'as plus, arrête de chauffer la maison, si c'est.
Ouais,
si
non,
c'est
non, ça fait tout.
Et Alexis le Rossignol, la petite chaudière, tous les dimanches. À Paris, jusqu'à fin juin. Chaudière, ouais.
Merci. Zéro viande, zéro poisson. Alors, je tiens à préciser, c'est un détail important parce qu'il y a aussi une tendance, sur les recettes végétariennes, c'est de faire, par exemple, des burgers végétariens en remplaçant, la viande par, espèce de concassé de soja, de betterave pour donner une couleur rouge, pour imiter totalement la viande, voire et là par contre c'est un autre choix, de rajouter des produits qui donneraient le goût de la viande pour avoir l'illusion de la viande. Là, c'est pas du tout le propos.
Ah non, c'est naturel.
Hein. Le propos est de s'amuser, voilà, à respecter les légumes dans leur goût, dans leur sens, mais en faire des bolognaises de tomates. La ratatouille, ça par contre, il n'y a aucun détournement. Elle est comme ça. Et c'est.
Mais c'est parce que.
C'est la référence des légumes cuits et provençaux et bon.
C'est pour ça que quand j'ai fait ce livre-là, il y avait plus de création, mais je me suis dit peut-être que parfois on avait aussi envie de cuisiner quelque chose qu'on connaît,
ouais,
et manger une jardinière de légumes parce qu'on est au printemps là,
ouais,
et bah, c'est quelque chose de fou d'aller acheter des légumes, de les couper en petits morceaux, de mettre un petit peu d'eau, un petit peu de beurre et un peu de sel et de les cuire à couvert tout doucement, les faire étuver, les lier dans cette liaison qui va se faire, c'est un truc de fou, hein. Vraiment.
C'est l'aubergine qui est à la braise, à la broche.
À la flamme, ouais.
À la flamme, c'est ça. Ouais, ouais. Là, il faut avoir l'équipement, par contre.
Ou une chaudière. Une chaudière.
Je peux vraiment faire des trucs à la broche.
Ben voilà. En fait, je vois que la chronique était bien.
Bien pour ça, de hasard.
Ne suivez pas ce conseil. Ne suivez pas ce conseil.
Non, mais un barbecue.
Ouais, c'est ça.
Bah un barbecue.
Oui, parce qu'il faut vraiment la mettre. On se dit que le barbecue n'est fait que pour les chipolatas et les saucisses. On peut faire des brochettes de légumes.
Oui.
Ouais. Ça va pas les assécher trop?
Alors là, j'ai mis l'aubergine directement sur les flammes. On prend une aubergine, on la lave, on l'essuie. Surtout, il y a une chose qu'on oublie souvent, les légumes. La première chose qu'on fait, on les lave. on les met dans de l'eau.
Mais on laisse la peau ?
On laisse la peau, on les lave. Si on les épluche, quoi qu'on fasse, la première chose des légumes, on les lave. Alors là, je reviens à l'aubergine, on les lave, on la lave, pardon, je vais le dire en français, et on la met directement dans la braise. Et ça prend, suivant la taille de l'aubergine, entre... Vous aimez les aubergines ?
On adore les aubergines.
J'attendais le truc, mais je me dis...
On se tait, on écoute. Toi, tu dis quoi ?
Sans la mettre dans un papier alu.
Non, directement dessus, la peau va durcir... Et elle va devenir, elle est déjà
croûtée, enfin, ouais.
Elle est déjà un peu foncée. Elle va devenir toute noire. Et quand l'aubergine éclate, on enlève l'aubergine. On la laisse à peine refroidir pour pas se brûler. Et la peau est devenue dure, ça s'enlève tout seul. On prend l'aubergine et on
ça
voit.
Ça devient comme une espèce de purée, quoi. Comme elle est toute molle.
Et l'aubergine, elle est cuite et elle va perdre, elle va pleurer toute son eau dedans, dessus. Je la fais de différentes façons. Là, j'ai mis des cébettes, des tomates, de l'huile d'olive. On peut mettre un peu de sumac et autres. On mange ça sans passer au frigo, mais c'est une tuerie la plus totale. Dessus, moi, j'ai mis des copeaux de parmesan parce qu'aubergine, aubergine parmigiane, c'est
ça marche bien. Bah oui,
ça marche bien. Et
c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Voilà, parce que ça va bien.
Et je crois que c'est au début des créas, si je me souviens bien.
Mais alors, pardon, pour en revenir à la manière de cuire et de préserver le plus possible les goûts, j'ai le sentiment que dès que c'est en papillote, dès que c'est en croûte ou dans l'argile, c'est-à-dire dès que c'est enfermé, étouffé, rien ne s'évapore, quoi.
Ouais, ça concentre, ouais. Mais dans le mot cuire, pour moi, il y a le mot concentré, en fait. Mmh. Quand on cuit, on va concentrer. Donc c'est pour ça qu'on cuit presque rien à l'eau, si ce n'est les haricots verts qu'on cuit au dernier moment. Mais un haricot vert qui est juste cuit à l'eau, c'est aussi dingue. Hein. C'est là, on débute la saison des haricots verts, pardon, on peut faire la liaison. Des haricots verts français, c'est un truc de dingue.
Les sauces un peu asiatiques, il y a pas de sauce soja, il y a pas le gnoc man ou je sais plus comment ça s'appelle.
C'est
ça.
Alors ça c'est
vous êtes pas parti là-dedans sur le sucre salé.
Non, parce qu'en fait j'aime bien préserver l'identité du cuisinier que je suis un cuisinier français, donc j'essaye de rester dans ce...
Oui, mais vous êtes ouvert sur le...
Oui, je suis ouvert, mais...
Après, la sauce Nyok Nam, c'est de la sauce de poisson, donc est-ce que du coup...
Ah,
ça
c'est vrai, t'as raison, j'avais pas pensé à ça.
Oui, mais après raison. C'est...
Enfin, si on en parle là, en choyade, tapenade, c'est que olive et capre.
Olive et capre sur la tapenade, en choyade.
Il y a des œufs dans le livre ? Il est question d'œufs ou pas ?
Oui.
Oui, d'accord. Ouais. Donc c'est végétarien.
C'est la différence entre végétalien et végétarien. Voilà. C'est ça.
Les végétaliens, non, je
sais pas. Zéro viande, zéro poisson. Et il n'a pas dit zéro œufs, zéro lait, zéro fromage. Et d'ailleurs, le parmesan, c'est du fromage aussi. Donc
Il y a des saisons pour le fromage.
La différence qu'il y a, c'est qu'il n'a pas souffert le...
L'œuf, il a pas souffert.
L'œuf, le cul de la poule. Viande et poisson, zéro viande, zéro poisson, c'est ces recettes végétales. La musique, dans la cuisine, est-ce que dans vos restaurants.
Vous écoutez France Inter.
Est-ce que vous écoutez de la musique ou au contraire, c'est la musique des batteries de cuisine, pour faire le mauvais jeu de mots?
Alors, le matin, les cuisiniers se mettent leur playlist.
C'est vrai?
Ouais, ils ont leur playlist.
Quand il n'y a pas de clients?
Quand il n'y a pas de clients.
D'accord.
Et d'ailleurs, souvent sur un volume assez élevé.
Et qui décide en cuisine? C'est vraiment c'est vous?
Ah non, 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 je les laisse faire.
Ah ouais.
Et après, ça dépend des restaurants. Quand on a la poule au pot, on est dans la pure tradition française. Et quand on est au grand restaurant, c'est quelque chose d'un peu plus contemporain.
Alors, faut rappeler, oui, que vous avez 5 restaurants à Paris. Il y a l'Épidore, le Clover Green, Clover Grill, le grand restaurant étoilé au guide Michelin, la poule au pot dont vous venez de parler. Il y a également Mimosa, qui est un restaurant dont vous avez créé la carte.
Absolument.
Au sein de l'hôtel de la Marine, place de la Concorde à Paris. Et le Clover à Gordes, à la Bastide de Gordes.
Qui a réouvert la semaine dernière.
Où là, il y a le potager qui est sous le nez des clients. Quoi.
Ouais. Et puis, on a fait une tarte de légumes, d'ailleurs. On a fait une tarte de légumes et c'est un... Je crois que c'est un des best-sellers de... Je ne l'avais jamais fait parce que c'était un peu capillotracté.
Vous avez fait un livre sur les tartes, en plus.
Oui. Ouais. Et on l'a mis la semaine dernière, et depuis l'ouverture, parce que je les ai tous les jours au téléphone, c'est un des plats qui se vend le plus.
Ah, on fait des belles marges en plus sur la tarte.
Mais ça dépend du prix.
Je crois que les meilleures marges dans les restos, c'est sur l'eau et le vin finalement.
Ouais, mais bon, la tarte, quand même.
Je pense, les liquides. On va parler.
Je pense que les pâtes, c'est pas mal, hein.
En marge.
Ah ouais, je pense que le.
Allez, crêpes. Allez, crêpes, et on en parle.
Ah ouais, la crêpe, ça. Ah,
voilà, allez, crêpes, allez, on est d'accord.
On est d'accord. Crêpes, c'est l'enculade, c'est breton. Mais, sans jambon.
Ah bah, évidemment, évidemment. J'ai pas dit galette, hein, j'ai crêpe. Tout à l'heure, on va recevoir Freddy Tiburs, dirigeant de Manger du Sens, une entreprise pour aider les acteurs alimentaires et les territoires à innover, se transformer ou se réinventer pour savoir ce que nous allons justement manger dans le futur. La musique dans la vie de Jean-François Piège, chef Piège à l'école hôtelière. Il écoutait en 87.
Ils connaissent peut-être pas, ils étaient pas nés, non?
Cette école, pas nés, non, c'est une bonne femme de cuisinier.
J'avais pas vu. Ça va, ça va. Ouais, allez, hein. Hop. Donne-moi le machin. Ouais. On est en 87, Jean-François. Vous êtes dans la Drôme. Vous faites l'école hôtelière à Tain-l'Hermitage.
Oui.
Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de cette époque-là, de la rigueur, du sérieux ou des soirées avec les copains?
Tu as raison, on pense école hôtelière, on se dit on va pas s'amuser. Quoi.
Bah ouais. Est-ce que...
Non, moi je garde l'image d'un professeur qui m'a changé ma vie, parce qu'on souvent on parle des profs. Moi j'ai eu la chance de rencontrer un prof qui nous a transmis sa passion, et je pense qu'en fait c'est ça l'éducation, c'est transmettre quelque chose. Et lui nous a transmis la passion qu'il avait pour la cuisine.
Il s'appelait comment?
Il s'appelait Jean-Paul Penin. Et je suis encore en contact avec lui de temps en temps. Et c'est la base de tout en fait. C'est quelqu'un qui a allumé la flamme.
Et qu'est-ce qu'on apprend dans une école hôtelière?
On apprend à aimer. On apprend à aimer, à faire plaisir aux autres. Et c'est ce qu'il a fait en fait. Évidemment, on était dans la technique, la pure technique, mais la cuisine, ça prend longtemps à s'apprendre. C'est un peu comme le reste, et il faut répéter, il faut y réfléchir, il faut l'intégrer. Mais pour ça, il faut ouvrir cette porte de la passion, et lui, il nous l'a fait, c'est-à-dire qu'après les cours, il restait avec nous et il partageait ses souvenirs de cuisinier, et puis il allait attraper un produit, bah tiens, on faisait ça comme ça, comme ça. Et puis, nous, on partait jamais, en fait. Il était passionnant, et c'est ça, en fait, la transmission.
Mais école hôtelière, moi, j'entends hôtel plus que restauration ou cuisine, donc...
Service, tout,
ouais. On n'apprend pas à faire le lit, on apprend à faire la cuisine.
En fait, on apprend tout dans une école hôtelière. D'accord. Il y a des sections cuisine, il y a des sections hôtellerie, et il y a des sections service aussi.
Et vous, ça a été uniquement restauration, ou vous êtes aussi intéressé à la partie
uniquement
cuisine. Hôtel?
Même uniquement que cuisine.
Même pas
avec
service,
des regrets, ouais.
Non, parce que non, parce que moi je suis assez transversal aujourd'hui dans ce que je fais, mais non, j'ai fait de la pâtisserie après, mais non.
C'est la cuisine.
Pas de regret, ouais. La cuisine.
Quelle est la nuance entre cuisinier et pâtissier?
Non, ça se dit pas, ça se dit pas.
Si, ça se dit.
Non,
la précision.
Ça, je pense que c'est qui peut le plus. Alors,
non. Un pâtissier, c'est plus organisé qu'un cuisinier. Je pense que la cuisine a besoin d'une sensibilité plus forte. Un pâtissier, c'est une réflexion, c'est une recette, c'est un déroulement, c'est quelque chose, c'est une organisation, la cuisine.
Et c'est presque mathématique.
C'est mathématique, ouais.
On joue pas avec les quantités, voilà. Avec la durée de cuisson. On n'improvise pas.
C'est chimique.
On parle de changement climatique, de réchauffement planétaire, c'est un changement climatique. On voit que nous, les ingrédients sont en train de changer. Donc si on appliquait les recettes que j'avais il y a 20 ans à des produits qu'on a aujourd'hui, ça fonctionnerait plus.
Carrément ?
Ouais.
Parce que le climat change sur la planète, les produits issus de la Terre changent, donc le mode de
cuisson... On est dans une gamme de... Là, il ne pleut pas dans le sud de la France depuis très longtemps.
Ouais, sécheresse totale. Ouais.
Sécheresse totale. On est, les vignerons nous disent qu'on est identique à une année normale d'une sécheresse fin août. On est le...
12 mai.
12 mai.
Le 13 mai, carrément.
Donc c'est-à-dire que... Et ils annoncent 15 jours de chaud. Donc on va avoir une difficulté. Et j'ai souvenir à Gordes un jour, le chef qui est à Gordes m'appelle, me dit « On a émis des courgettes à la carte, il n'y a plus de courgettes. Pourquoi ?» Il me dit « Sécheresse, chaleur, il n'y en a plus. »
Oh là là.
Donc il y a un vrai changement. Donc on est obligé, la pâtisserie
est-ce
s'est organisée.
Est-ce que la nature ne va pas réagir avec certains plants, certaines graines de plantes qui vont avoir besoin de moins d'eau? Finalement, parce que souvent on se dit que la nature, elle, s'adapte plus que.
Mais c'est à nous à l'accompagner aussi quand même.
J'entends, j'entends, mais est-ce que ça ne peut pas arriver? J'avais entendu parler, moi, de tomates qui réussissaient à pousser en total sans aucune goutte d'eau. Alors c'est peut-être une légende, et ouais. Peut-être qu'elle n'a pas le même goût que celle qui est arrosée, je ne sais pas.
Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'une bonne tomate, il ne faut pas qu'elle soit arrosée. Il faut qu'elle soit arrosée naturellement par la nature, par l'eau qui arrive, par où elle est plantée, par tout ça. Quand on parle d'ingrédients qui ont un goût de dingue, cette tomate qu'on peut imaginer, les meilleures tomates pour moi, c'est celles qui poussent contre un mur.
Parce que
le soir, la chaleur revient sous les feuilles et donne des goûts à la tomate qui sont incroyables.
D'accord. En 1991, vous écoutiez... beaucoup parlé hier avec Louis Bertignac, téléphone Un Autre Monde. Et là, on est à l'armée.
Et oui, parce qu'on a 10 mois de service militaire à faire. On peut le faire n'importe où, mais on peut aussi le faire au palais de l'Élysée. Et ça a été votre cas, Jean-François.
Je rassure tout le monde. Hein. Je faisais à manger. Hein.
Oui,
bah, oui, oui. Au président, quand même.
Dans les cuisines du palais de l'Élysée, des cuisines très masculines, j'imagine.
Vous y étiez ?
Je crois savoir qu'il n'y a même pas d'installation pour les femmes. Il n'y a pas de vestiaires séparés. C'est vraiment, ben, c'était vraiment.
En fait, il n'y avait que des appelés du contingent et c'était réservé aux hommes.
Ouais.
Avec quelques encadrants, donc c'était vrai que c'était que des garçons.
Je crois que ça a changé maintenant à l'Élysée.
Maintenant, ils commencent à avoir des
femmes. Oui, maintenant, il y a des femmes.
Ouais, mais c'est pas si vieux que ça.
C'est pas si vieux que ça.
Brigitte, c'est la chef, absolument. J'imagine que quand tout d'un coup, on doit servir, préparer un repas pour une occasion importante. Il y a eu quoi comme occasion importante pendant ces 10 mois de service militaire ?
Les repas d'État.
Oui.
Les repas d'État.
Vous avez un souvenir en particulier ?
Ouais, le roi des Belges, la première fois.
D'accord.
Un grand repas. Et puis j'ai un petit souvenir, c'est, on parle des légumes, on parle d'artichauts. Il y a deux cuisines à l'Élysée, une cuisine privée, une cuisine officielle. Officielle, c'est là où on fait tout ce qui se passe.
Les banquets.
Les banquets, puis tous les jours. Et puis la cuisine privée, bah, c'est la cuisine du quotidien. Et il y a un chef qui est avec un appelé du contingent. J'étais cet appelé du contingent à un moment donné, et il s'absente. Le président ne devait pas déjeuner. Le secrétariat appelle, il n'y a personne dans la cuisine, c'est moi qui réponds. Le président a décidé de déjeuner là.
C'était Mitterrand à l'époque ?
C'était Mitterrand à l'époque. Et tout était organisé, là rien n'était organisé. Donc qu'est-ce qu'on lui fait à manger ? Je prends une feuille de papier et j'écris. Artichaut. Je mets un D à la fin.
Oui.
D'artichaut ? Parce que Mitterrand, ça prend
un dé à la fin, oui. Mais je l'ai pas pris pour un artichaut. Et en général, le secrétariat retapait et glissait au président, et c'est lui qui choisissait ce qu'il mangeait. Et comme c'était au dernier moment...
Ils prennent directement votre feuille sans la corriger ?
Et le président a barré. Et a mis un thé à la fin. Et j'ai pas gardé la feuille, je m'en veux.
Ah, dommage,
mais...
collector.
Ah ouais, collector.
Collector. Voilà. Ceci, s'il y a bien un président dont on a toujours mal orthographié le nom de sa vie, c'est lui, hein, parce que jamais s'il y avait deux T, deux R, un T.
Mais il les a pris ou il les a juste corrigés
En 2016, vous écoutiez. C'est vrai que ça transpire en cuisine. On est en 2016.
Qu'est-ce qui est sorti qu'en 2021, cette chanson est vraiment bravo.
C'est vrai.
Hey, qui c'est qui la ramène encore là ?
Non, mais
qui la ramène encore ?
Il a raison. Pourquoi cette musique, vous aimez ce qu'elle évoque ?
Ouais, j'aime bien. Et puis ça me fait penser. Mes enfants adorent ça quand dans la voiture on écoute cette musique, donc j'adore ce moment-là.
Très bien.
Et à cette époque-là, Jean-François, vous décrochez 2 étoiles au Michelin. C'est énorme, c'est un bonheur fou, j'imagine. C'est beaucoup de transpiration, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, de détermination. Et puis c'est une récompense qui arrive là, à un moment, et puis dès le lendemain, il faut repartir au boulot.
Ah ouais, mais je le dis, hein. Les récompenses, c'est un bonheur essentiel quand on les a, rapide, mais il faut tout de suite se remettre au boulot.
C'est éphémère.
C'est éphémère.
Mais comment on fait 2 étoiles ? Ouais. Comment on fait 2 étoiles ?
Bah, il y en a qui font 3, donc il faut travailler encore plus.
Non, mais...
Ça vous manque ?
Non, mais il faut y travailler. Je pense... Je l'ai déjà connu quand j'étais au Plaza, et je pense que la nécessité dans un métier, c'est toujours donner le meilleur de soi. Après, on est reconnu, on n'est pas reconnu, c'est chacun le voit et le ressent. Mais l'important... Le jour où on arrête à donner le meilleur de soi, je pense qu'il faut arrêter totalement.
Quelle est la différence entre 2 et 3 étoiles ?
Une étoile de plus.
Aux yeux de Michelin ?
Ça, je ne sais pas. On ne sait pas.
Mais non, mais c'est le goût, c'est la présentation,
non,
c'est
je pense
la
que
diversité.
Eux, ils vivent une émotion, ils ressentent quelque chose dans un restaurant ou ils ne le ressentent pas.
C'est très subjectif. Quoi.
Mais tous les classements sont subjectifs, mais moi je les accepte.
Bah, non, pas tous. Quand il y a un classement des gens
les plus beaux, c'est pas subjectif.
Les meilleures ventes de livres, par exemple, de cuisine,
oui,
c'est
pas un classement.
C'est factuel.
C'est pas un classement, c'est un résultat. Non, un classement, c'est pas pareil. Les victoires de la musique.
C'est un jugement, là.
Les victoires de la musique, c'est pareil.
C'est subjectif, absolument.
C'est subjectif.
Bien sûr.
Y a suffisamment, en tout cas, de professionnels réunis autour, comme au Festival de Cannes, où ils sont plusieurs. Là, si c'est un mec qui passe
non,
un
c'est,
jour...
Non, c'est plusieurs. C'est une organisation. Très, très honnêtement, je pense qu'on a nécessité, nous, dans notre univers. Moi, j'aimerais bien en avoir une de plus. Je parle des toiles.
Hein. Oui, oui,
si
oui,
je vois votre tête là.
Et ben alors, Jean-François.
Non, mais c'était la tête de Nagui.
Ah bah, non, mais moi je m'en fous, je l'ai.
Ah, pardon.
L'étoile. Quoi, l'étoile ?
L'étoile.
La troisième.
Allez.
Bon, passons au. Oui,
mais il faut travailler, c'est tout.
Mais quitte à faire des sacrifices pour la cuisine aussi ?
Ah, pas du tout. Le seul, moi je fais aucun sacrifice, si ce n'est la volonté que j'ai à dire quelque chose dans la cuisine que je fais.
Mm. Parlons cuisine avec Freddy Tiburce. Merci de venir à ce micro. Vous êtes cofondateur et dirigeant de Manger du Sens. Quel est le but de Manger du Sens?
Bonjour à tous. Bonjour. Le but de Manger du Sens, c'est d'aider les acteurs alimentaires, les marques, les organisations à répondre aux défis sociétaux, en quelque sorte, et aux attentes sociétales. Donc, alors, nous les accompagnons dans cette transition alimentaire.
C'était le défi sociétal, c'est de pouvoir manger mieux en dépensant moins, ou c'est de s'adapter justement aux problèmes climatiques, c'est de s'adapter au problème de la surconsommation de viande ou de la pêche industrielle. Enfin, quel est le réflexe?
Eh ben, je suis un peu tenté de dire que c'est un peu tout ça à la fois. C'est bien ça la complexité du sujet. Les défis sont nombreux. Jean-François Piège rappelait tout à l'heure le défi climatique, l'urgence écologique, mais c'est pas le seul. Il y a aussi la transformation digitale qui influe et qui a des incidences majeures sur nos comportements de consommateurs. Alors quand je dis consommateurs, je voudrais rappeler que nous sommes des individus uniques, mais avec trois statuts. Consommateur précisément, citoyen et mangeur. Et selon la casquette que l'on prend, on peut avoir quelques dissonances dans nos comportements. Mmh. Et ça engendre des approches souvent contradictoires. Et c'est pas facile pour les acteurs alimentaires de répondre à ces attentes qui sont divergentes. Ouais, d'où la nécessité de réconcilier nos statuts en
absolument,
quelque sorte.
Mais, et vous dites que manger, c'est un acte
majeur.
Un engagement, ouais, c'est ça. Mais c'est un engagement, c'était.
Ah, c'est un engagement, ça, tout à fait.
C'est ouvrir son porte-monnaie pour acheter un produit, le choisir et la quantité que l'on consomme, c'est un acte presque politique, quoi.
C'est pas presque. Ça l'est de plus en plus. En tous les cas, j'aime bien déformer cette phrase de Bria Savarin. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Mm-hmm. Ça n'a jamais été aussi vrai. Mm-hmm. Et je suis tenté de rajouter. Et c'est le dis-moi ce que tu manges et je te dirai quelle société tu veux.
Et alors, quelle société, à votre avis, on va avoir?
Alors ça, c'est une question complexe. On va avoir une société qui doit répondre précisément aux enjeux qu'on vient de rappeler. Et encore, j'ai pas évoqué, j'ai abordé la transformation digitale, j'ai pas évoqué les effets démographiques, le vieillissement de la population, l'émergence des millennials qui sont aujourd'hui la quintessence, qui ont le pouvoir d'achat, etc., et dont les comportements influent sur les plus jeunes et sur les plus âgés que nous sommes pour certains d'entre nous. Et puis derrière tout ça, il y a la question de l'acceptabilité sociétale. Dans le rappel que vous avez fait des différentes approches ou attentes, il y a une partie de la population qui termine la fin du mois à 10 euros près.
Ouais.
Et il y a une partie qui a plus de facilité et forcément les attentes sont dissonantes. Alors comment on répond à ça? Déjà, on peut se rassurer lorsqu'on fait un peu de prospective alimentaire ou de cuisine du futur. À une époque, on parlait beaucoup de gélules de synthèse, ça sera pas le cas.
On parlait aussi de manger des grillons, de manger des insectes, des mouches,
oui, alors ça,
des
pour
vers.
Le coup, c'est déjà un peu le cas.
En Asie.
Il va être tentant d'avoir recours à ces nouvelles alternatives protéiques.
Si on peut éviter le pangolin, ça serait bien, mais.
Par exemple. En tous les cas, ce qui est certain pour répondre à votre question, la cuisine du futur, elle est conditionnée par la révolution agricole et alimentaire en cours. Et nous sommes qu'au tout début de la partie. Il y a eu une révolution agricole majeure dans les années 50-60 et j'ai envie de dire depuis 60 ans, on produisait, transformait, commerçait, consommait à peu près de la même manière. C'est définitivement fini.
Il faut quand même trouver aussi la solution pour que les agriculteurs s'en sortent dans ces conditions sociales et économiques et pas les mettre entre le marteau et l'enclume en disant vous devez produire plus et mieux, moins cher pour que tout le monde y ait accès et puis alors sans pesticides, sans glyphosate et d'un coup
c'est pour ça la concurrence des pays.
Je peux rajouter quelque chose et donner envie aux gens à continuer à embrasser ce métier.
Ouais.
Parce qu'il y a un déficit aussi de vocation et c'est
parce qu'ils sont désespérés aussi, et donc ça donne pas envie.
La nouvelle révolution agricole et alimentaire qui se joue, c'est aussi celle-ci. Ouais. C'est l'effet générationnel, c'est aider, avec aider de nombreux départs en retraite.
Et c'est les aider aussi.
Alors, les aider, mais donner envie d'épouser la nouvelle révolution, si vous voulez, agricole alimentaire, c'est celle du vivant. C'est le rapport que l'on va avoir avec le vivant, avec la nature, d'une manière sociétale. Et de fait, la manière dont on va aborder les sujets agricoles et alimentaires, la manière dont on va en échanger, va conditionner la façon dont l'agriculture et l'agroalimentaire vont trouver les compétences, les talents pour accompagner cette révolution-là.
Il faut leur donner envie.
Elle ne se fera pas sans les femmes et les hommes. C'est une évidence. Après, il y a un certain nombre de caractéristiques qui sont déjà perceptibles. Jean-François Piège en a évoqué un certain nombre, et son ouvrage en témoigne. La végétalisation de l'alimentation, c'est déjà quelque chose d'engagé.
Est-ce que ça devient presque une nécessité pour sauver la planète, entre guillemets, c'est à réduire les... Je parle de l'industrialisation de l'élevage de viande, de la pêche industrielle qui détruisent les océans ou qui abîment nos forêts. Parce qu'il y a la déforestation, on plante du soja, tout ça pour alimenter du bétail qui va servir à surconsommer de la viande et qui sera pas bonne et...
Vous êtes un fin connaisseur.
Non, je me suis intéressé
néanmoins,
au sujet.
Néanmoins, il ne faut pas tomber dans l'excès, y compris par rapport aux filières animales. Les filières animales, elles sont nécessaires.
Oui.
S'il n'y a pas de prairies, il n'y a pas de biodiversité,
on est d'accord,
il n'y a plus de paysages.
Mais je parlais d'industriel, hein, c'est ça que je reproche.
Mais c'est pour ça que je voulais vous le faire souligner.
Ouais.
Parce que en fait, on assiste dans cette dynamique très forte autour de la végétalisation de l'alimentation à une forme de marginalisation, voire de diabolisation des filières d'élevage. Et j'étais il y a quelques jours avec des éleveurs, très sincèrement, pour un éleveur aujourd'hui qui se bat au quotidien, y compris sur des systèmes extensifs, tout ce qui va bien, engagé en bio, etc. Aujourd'hui, la question fondamentale, intrinsèque, de se lever tous les jours pour faire son métier d'éleveur, il se pose la question.
Mais c'est lui qui souffre le premier du traitement industriel, de l'élevage en batterie, du bétail.
On est d'accord.
Des lapins qui sont dans 10 cm carrés et qui ne verront jamais la nature.
On est d'accord.
C'est lui le premier qui en est la victime.
Tout à fait.
Juste une dernière question avant de vous quitter. Est-ce que le mode de vie, c'est-à-dire 3 repas par jour, enfin un mode de vie peut-être très occidental, va se perpétrer, ou au contraire, puisque la tendance aussi est aux jeunes intermittents, est-ce que d'un coup la planète dans 50, 100 ans va passer à 2 repas par jour pour ceux qui ont la chance déjà d'avoir un repas par jour?
On a un modèle alimentaire de 3 prises alimentaires quotidiennes.
Matin, midi, soir.
Je pense que ça, c'est culturellement bien ancré. Néanmoins, force est de constater qu'il y a déjà quelques coups de canif dans cette structuration des repas. J'imagine que dans les restaurants de Jean-François Piège, on ne prend pas nécessairement mise en bouche.
Il a arrêté de faire les petits déj.
Entrée, plat, dessert, etc.
Non, mais moi, j'ai jeune cuisinier, quand j'étais à l'école hôtelière, on avait un tableau de grammage. Grammage, c'était la nécessité de ce qu'on devait servir au client pour un plat. Quand on est jeune cuisinier, on apprend ça. Si je prends ce tableau de grammage, on est incapable de finir le plat aujourd'hui.
Tellement c'est trop, tu veux dire ?
Oui, ouais. Ça a été divisé par 30%. C'est-à-dire que la viande nécessaire qu'on nous apprenait à l'école, avant, c'était 300 grammes. Aujourd'hui, on a mangé 200 ou 220 grammes de viande,
c'est
déjà pas mal.
C'est costaud.
Je parle de viande en sauce, les viandes grillées, c'est toujours un peu plus.
Après, ça dépend s'il y avait des choses beaucoup à côté. Le plat principal, la viande?
Là, on parle de la protéine, c'est vraiment quelque chose. Et c'est ça qui a changé, c'est qu'on mange moins aujourd'hui.
Ouais.
Et je pense que ça, c'est une des choses qui va arriver. Les 3 fois par jour, je pense qu'on va les garder, mais on va moins manger.
Oui, et peut-être pour manger mieux, et tant qu'à manger de la viande, autant manger de la bonne viande faite par un éleveur humanisé et pas industrialisé.
On est d'accord. Et pour la question des quantités, Jean-François a fondamentalement raison, on le voit bien. Ce qui va rentrer en ligne de compte aussi, c'est l'évolution de la connaissance, des sciences, et notamment en matière de nutrition, le génome, le microbiote, le lien entre le microbiote et le cerveau. L'alimentation va devenir de plus en plus sur mesure, personnalisée, en tenant compte...
Et parce qu'elle est très liée à la santé aussi,
exactement.
Et qu'il faut faire attention.
C'est l'autre élément qui va déterminer, c'est-à-dire que chacun va aussi choisir son alimentation en fonction de la qualité de bien-être et de l'art de vivre qu'il entend avoir, y compris pour prévenir...
En respectant ce que son voisin mange dans son assiette aussi, je tiens à le dire, et ça marche dans les deux sens.
Et puis rappeler que la cuisine du futur, c'est forcément un acte social, c'est-à-dire que c'est aussi un moment de commensal, un moment de partage et ça reste une déterminante majeure pour la cuisine
c'est
du
clair.
Futur.
Naturel. Merci beaucoup Freddy Tiburce, manger du sens, dirigeant de cette entreprise pour aider les acteurs alimentaires et les terroirs à et territoires à innover. Lapsus révélateur. De quoi vas-tu parler Tanguy Pastureau dans la dernière demi-heure ?
Eh bien restons dans les territoires, je vais vous parler de la Mayenne, un joli petit département bucolique. Le seul souci c'est qu'en Mayenne il y a actuellement le seul cluster de Covid en France. Mais qu'ont fait ces gens ?
C'est
mais
vrai ?
Mais oui.
Ok, on saura ça tout à l'heure. C'est la bande originale, soyez bienvenus si vous nous rejoignez avec Leïli.
Bonjour Leïli.
J'ai Leïli un livre. Leïla, donc, Adolphe Dazi, Morgane Gagnon, Tanguy Pastureau, Alexis Le Rossignol, Tom Villa et notre invité Jean-François Pierre.
Ah oui.
Zéro viande, zéro poisson, 50 recettes végétales et gourmandes que l'on peut faire à la maison, même si c'est vrai, comme Leïla, ça fait peur au début en se disant waouh, est-ce qu'on est capable, Morgane l'a dit aussi tout à l'heure, de faire comme Jean-François Piège, c'est un chef étoilé, il a des grands restaurants, il en a plusieurs, évidemment c'est facile pour lui.
On vient demain goûter, c'est ça, non ?
Absolument, mais pas déçu. Hein ?
Non, mais en tout cas, ça s'essaye et on ne peut pas forcément réussir du premier coup quand on tente une recette ou voire en découvrir une nouvelle.
On va la réussir à sa façon.
Ouais, c'est ça. Il y a des erreurs qui deviennent des recettes. Erreurs,
les tartes tatin, on a renversé la tarte.
On a oublié la pâte, on l'a mise au dernier moment, c'est ça ?
Oui, et puis après on l'a renversée.
C'est rendu pité.
Il y a eu pas mal de choses. Donc, je crois que non, c'est pas une prison. Là, une recette, c'est faut l'apprendre, faut se l'approprier, et puis ça sera. Je suis sûr que ça sera très bon si on y met ce qu'on a au plus profond de soi.
Est-ce que ces recettes, vous les mettez dans vos restaurants ?
Il y en a certaines que je vais mettre dans les restaurants. Ouais.
Ouais. Ah oui, c'est-à-dire que ça vous a donné le goût et l'envie. Vous avez dit pourquoi pas ça ?
Oui, je parlais de goujonnette d'asperge. Voilà, il y en a. Alors effectivement, aujourd'hui, nous principalement dans les restaurants, on travaille pas que du légume parce que c'est pas ce qu'on vend le plus. Mais il prend, chemin faisant, il prend une partie de plus en plus importante.
Est-ce que la nouvelle tendance, tout à l'heure nous évoquions avec Freddy Tiburce les soucis de santé, est-ce que des clients arrivent en vous disant, je sais pas, ils sont quatre à table, il y en a un qui vous dit, alors moi c'est sans gluten, l'autre qui vous dit, alors moi je prends pas de crustacés, l'autre qui vous dit, moi je prends pas de viande, l'autre qui vous dit, moi je prends pas de sucre, enfin bon, est-ce que ça devient maintenant une espèce de tannée de pouvoir satisfaire une même bande d'amis, une même table, mais avec quatre contraintes de santé différentes.
Alors, il n'y a qu'un restaurant qui a ces contraintes-là. C'est le restaurant gastronomique, c'est le grand restaurant. Et ça, de plus en plus.
Bah pourquoi lui, il a ses contraintes et pas les autres ?
Parce que dans les autres, je pense que...
Ils se taisent.
Non, mais c'est ça. Ouais. Ou du moins, alors, parce que maintenant... ils se débrouillent, en fait. Mais au restaurant gastronomique, on dit, voilà, je ne veux pas manger ça. Et nous, ça nous a... par exemple, on parle du gluten. J'ai trouvé quelqu'un qui fait des pois chiches dans le Var, qui est à Brasse, qui fait des pois chiches de dingue, et on en a fait une croûte. Et au grand restaurant, on sert plus le pain traditionnel, on fait une croûte de pois chiches dans laquelle il n'y a pas de gluten, et c'est une tuerie. C'est quelque chose qu'on fait depuis 6 mois. On n'est pas
parti. Ça remplace le pain.
Ça remplace le pain.
Il y a une mie aussi, ou il y a une croûte.
Il y a surtout une croûte, parce que ce qui est difficile dans les sans gluten, c'est la croûte. La mie, elle est toujours là.
D'accord.
Elle est toujours plus humide parce que le gluten n'a pas cette...
Mais c'est à base de farine de pois chiche.
C'est à base de farine de pois chiche, c'est dingue. Vraiment, moi je mange
est-ce que
ça.
Est-ce que maintenant dans les restaurants, vous, finalement, avant de dire qu'est-ce que vous voulez boire ou qu'est-ce que vous voulez manger, la première question c'est, avez-vous des allergies ?
Au restaurant gastronomique, chaque personne qui réserve est rappelée pour savoir s'il y a une allergie.
Ah oui, carrément.
Individuellement.
Ah oui, c'est d'abord la santé avant le goût et le...
Parce qu'en fait, on sait qu'aujourd'hui on va avoir beaucoup de choses et donc nous on se prépare même si on a des choses... Mais parfois, il y a des gens qui mangent vraiment rien. Donc, il faut qu'on ait cette capacité. Non, mais qui mangent pas grand-chose.
Et on en rit, pardon. Il y en a pour lesquels. Alors, il y a un effet de mode pour certaines personnes. Moi, j'ai malheureusement déjà vu les œdèmes de coin. Quand quelqu'un dit, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de crevettes ou cacahuètes, c'est pas raison, c'est plutôt les cacahuètes.
Ou les agineux.
Et puis, d'un coup, il y avait de l'huile. Non, il n'y a pas de cacahuètes, mais on a mis de l'huile de cacahuètes. Et tu vois la personne qui est à
sérieux parce que les gens qui viennent, on a envie de leur faire plaisir, donc on prend ça très au sérieux.
Alors, il y a des recettes extrêmement traditionnelles et basiques, comme la purée, même la purée de carottes, on parlait tout à l'heure, des papillotes aussi de légumes verts pour préserver les goûts, les jardinières de légumes. Il y a des idées plus originales comme le veau Orlov, zéro viande, mais là, c'est à base
de
chou-fleur, exactement, un chou-fleur rôti. La tourte aussi, on se dit, tourte, oui, mais il n'y a pas de viande.
Oui, tourte de... Bah, et la rillette, c'est fou. Hein. Le romanesco cuit en cocotte minute et écrasé comme ça, ça le fait. Hein.
Et le boudin ? Comment faire du boudin sans viande ? C'est fou !
Alors, c'est le boudin blanc.
Oui.
Et le boudin blanc, c'est une volaille qui est mixée avec, avec des œufs, de la crème et des épices. En fait, j'ai fait tout simplement avec du légume et ça marche... foncièrement.
L'escalope normande qui a impressionné, qui sera le prochain plat de Leïla Lamezian.
Bravo pour Leïla, parce que c'est le plat dont je suis le plus. C'est avec vrai. Les goujonnettes, c'est les
comme quoi,
c'est les deux qui marchent le plus.
J'ai peut-être un peu l'œil, j'ai peut-être une petite carrière.
Je crois. En fait, je crois. On sera quatre demain.
50 recettes, zéro viande, zéro poisson. Jean-François Piège chez Hachette. Voici Tanguy Pastureau. Ça marche.
Demain soir, je joue mon spectacle en Mayenne, un département atypique, puisqu'un habitant sur deux y est un cheval, l'autre une vache, qui cohabite avec une espèce moins belle, au pelage moins soigné, à part ceux qui se taillent le pubis, bon, l'être humain. Alors mes fans, le Pastucrou, composé de ma mère et d'une amie, le savent, j'ai vécu en Mayenne, j'ai fait ma première et ma terminale au lycée Victor Hugo de Château-Gontier. Château-Gontier, tout le monde voit ? Non, bien sûr. Eh bien, c'est la deuxième commune la plus peuplée du département, avec 11 000 habitants, pour vous dire la taille des autres. En Mayenne, il y a des communes qui sont plus petites que Teddy Riner quand il lève les bras. Hein, vous rentrez un nom de commune dans Waze, le truc vous dit « Mais va te faire voir, Martine, avec tes recherches de bled, la chapelle au riboule, on est à peine rentré qu'on est déjà sorti comme dans ta sœur. » Oui, j'ai pris l'exemple d'une version de Waze qu'on pourrait régler en mode de la tourette. Hein, ce serait super. À gauche, connard hein. Voilà. Non mais si Waze veut m'embaucher, moi j'ai plein d'idées. Le mode Eddy de Préto, qui vous amènerait aux meilleurs endroits pour se pendre. Le mode Philippe Poutou, qui vous amènerait aux meilleurs endroits pour pendre un patron du CAC 40. Parfois, vous arriveriez avec votre patron du CAC 40 sous une grosse poutre. Il y aurait déjà 10 fans d'Eddy de Préto en train de faire la queue, hein, et un qui vous dit oh, moi je suis fan de Mylène Farmer depuis 84 mais j'ai toujours acheté dans le neuf, bon j'avais pas de poutre. Et Anne Hidalgo, au bout de la file, qui pleurait en disant « J'ai fait 1,8%, je fais tellement pitié que ce sont des gens qui ont ouvert une cagnotte litchi pour financer ma corde. » Bref, demain, je joue en Mayenne. Donc, quand c'est comme ça, je vous le dis à vous, Nagui, qui découvrait le showbiz, on fait de la promo. Hein, pour élargir son public et éviter que dans la salle, il n'y ait que des auditeurs de France Inter. Il faut aussi des jeunes et des gens propres. Par exemple, le week-end dernier, Morgane Cadignan a joué à Nice, ville de droite. Bah, juste avant, elle a fait la web TV d'Éric Zemmour. Ceci sont tricolores TV. En bidouillant un peu son CV, elle a dit être née à Sedan, d'une identité russe et d'un sanglier des Ardennes. Elle a lâché un petit « les Arabes, c'est pas mon truc ». Paf, gros succès à Nice. Hein, Christian Estrosi a jeté sur scène le legging avec lequel il fait son jogging. Mais moi, le problème, c'est que les gens pensent déjà que je suis de droite. Tout ça parce qu'une fois, j'ai dit que si j'étais camionneur, j'accrocherais dans la cabine un poster de Valérie Pécresse nu. Le oui seulement masqué par une pancarte avec écrit « Pitié, il me faut 3 millions d'euros ». Bon, hein, donc ma promo, je l'ai faite sur une radio neutre, France Bleu Mayenne, par téléphone, lundi 17h10, on m'a appelé à 17h et j'ai été mis en attente, ce qui fait que j'ai écouté France Bleu 10 minutes, alors ne le faites pas. Voilà. Hein. Non, je sais, c'est Radio France, logique de groupe, on doit être corporate, blablabla, mais à un moment, il faut dire la vérité aux gens. À 17h05 lundi, France Bleu Mayenne est diffusé le duo Grand Corps Malade, Kimber Rose, et j'étais pas prêt. Voilà. Je me suis vomi dessus. J'avais un t-shirt Chevignon, on voyait plus que chez. Hein, des jeunes m'ont dit, ouais, stylé le t-shirt, hein, tu parles comme nous, gros. Alors, non, je ne juge pas, Kimber Rose est une artiste soul géniale. Hein, même à la soirée des 97 ans d'Alain Juppé, si elle y chantait, Juppé se mettrait à guincher du boule, hein, en repensant à ce qu'il faisait le jour de la naissance de Nina Simone. Quant à Grand Corps Malade, mais cette voix, elle est plus profonde que le déficit de la balance commerciale de la France. Mais moi seulement, j'en peux plus des duos, il n'y a plus que ça. Est-ce que dans mes chroniques, il y a Alexis Le Rossignol qui vient parler du gratin d'asperges ? Eh ben non, hein, il reste à sa place, moi à la mienne. On s'aime, mais on sait qu'on n'a rien à vivre ensemble. Finalement, ça pourrait donner lieu au couple le plus équilibré de l'histoire. Hein, donc j'étais au téléphone. Mon chien l'appelle vomi sur moi pensant que c'était le sien, hein, parce que je prends toujours le soin de manger du frolic avant de vomir afin de le tromper. Bon. Et j'ai aussi entendu le journal de 17h de France Bleu Mayenne, qui débute à 17h parce que ce n'est pas vous, Nagui, qui présentez cette tranche. Alors, les news en Mayenne, je vous le dis, c'est très cool. Hein, l'infotrafic sur Laval comptait 4 mètres de bouchons cumulés. En fait, il y avait une Twingo de 4 mètres de long en panne. Mais à un moment, ils ont annoncé l'apparition d'un cluster à Changer. Changer, c'est pas seulement ce qu'on doit faire à Édouard Balladur toutes les 4 heures, c'est aussi le nom d'un petit village de la Mayenne. Et là, stupeur, j'apprends qu'à Changer, 6200 habitants, le même nombre qu'à Séoul si les mecs du recensement là-bas avaient fait grève juste après avoir dénombré 6200 habitants. Le taux d'incidence explose. Hein, 3 fois plus que dans le reste de la Mayenne. Mardi a même eu lieu à Changer une campagne de dépistage, salle des nymphéas. Ils sont tous foutus des trucs dans le nez, enfin on serait cru au César. Mais le mystère demeure. Pourquoi à Changer, les gens se contaminent-ils ? Est-ce qu'ils s'embrassent tous comme des porcs à pleines lèvres ? À l'abri des regards, couchent-ils tous, même tous ensemble, si ça se trouve, changer, c'est le nouveau Mykonos, quoi. Hein, le soir venu, on ferme la salle des nymphéas, et là-dedans, le maire déboule devant une foule, et se met hurler, qui c'est qui veut de la soupe de langue? Mais quand je pense aux arts que vous avez déjà versé, Nagui, pour l'allocation de ce château au Cadac dans août, mais c'est trop bête. Enfin, bon, alors, fin de l'histoire, j'ai fait ma promo sur France Bleu Mayenne, puis j'ai raccroché, en me disant, qu'à cause de la programmation musicale de France Bleu, j'irai rejoindre les fans d'Eddie Depreto sous une poutre. 2, que demain, avant de jouer, j'irai peut-être faire un tour à changer.
Mais non.
On sait jamais.
Merci, Tanguy Passion. À suivre Tom Villa dans quelques instants, mais d'abord dans le monde de la culture, que se passe-t-il, Leïla ?
Universal vient de sortir des versions limitées des albums de Billie Eilish, de Dua Lipa, de The Weeknd, ou des compilations même de Bashung, de Johnny. Quelle est la particularité de ces versions ?
Acoustiques.
Je pense qu'ils sont sous forme de cassettes.
Bravo.
Mais non.
La cassette revient.
Ils sont sortis en cassette.
Et je sais même pourquoi, c'est parce que dans des séries comme Stranger Things, les gamins, ils voient des cassettes dans des Walkman.
Absolument.
Il faut surtout le lecteur. Qui a encore un lecteur de cassettes?
Mais ça se revend.
Il faudrait que quelqu'un t'offre un Ghetto Blaster, par exemple, pour un de tes anniversaires. Ça serait quand même une bonne idée.
Ah, j'ai eu.
Avec plein de cassettes.
Je l'ai.
Oui, je sais.
Ah oui, t'y étais, oui.
Et puis c'est moi, en plus.
Je sais.
Bon, voilà.
Je vais pas dire.
Il m'a oublié.
Non, Michel Alzheimer.
Mais non, mais du tout,
non. C'est celui que t'as vendu sur eBay, non? C'est ça?
Pas du tout. J'ai toujours, même avec les cassettes.
Il a fallu trouver les cassettes.
Je l'ai toujours, dit-il.
Je réponds,
tu l'as vendu sur eBay.
Non, en même temps, c'est le genre de cadeau qui prend de la place. Je pourrais entendre complètement qu'il s'en débarrasse.
Je vois même où il est. Ça prend de la place.
Oui, dans la
cave
poubelle.
Je vois très bien où il est.
Ça va se finir en chamaillerie.
Au fond de la cave.
Et si c'est tendance, je vais te le rendre.
Absolument pas, tu le gardes. Nostalgique, Jean-François Piège, des cassettes, une musique de votre enfance. Ça serait quoi une musique de votre enfance en cassette? S'il fallait que je vous dégote une cassette en cherchant pendant des heures sur Internet.
Non, tu l'as pas.
Vas-y.
Je sais pas, quelle vieille musique aimeriez-vous écouter en cassette?
Une cassette?
Yves Montand, Les Copains d'abord.
Les Copains d'abord, d'accord. Ceci dit, là, en l'occurrence, ce sont des artistes du moment qui
sortent en cassette, absolument, mais ils ressortent aussi des compilations, ils sortent des choses... Mais
les cassettes aussi, il faut les rembobiner aussi. Il faut le crayon.
C'est Brassens, hein, c'est pas Yves Montand, Les Copains d'abord.
Oui, pardon, pourquoi j'ai dit Yves Montand?
Parce que ça serait original, ça serait collector.
Ben voilà, on va avoir du mal à l'enregistrer, là.
Autre question, vous connaissez la franchise Fast and Furious avec Vin Diesel? Bien entendu, et bien soyez rassurés. Ouf. On va avoir le droit
au 10.
Fast and Furious 10, mais pour une fois, on peut se dire,
c'est Louis Leterrier qui réalise, c'est un Français.
Bravo. Ah. Le réalisateur, c'est Louis Leterrier, bien sûr. Réalisateur de Lupin.
Je croyais que ça se passait à vélo dans Paris. Tu vois, je me disais,
c'est pas mal. Non, pas du tout.
Ça serait Anne Hidalgo qui réalise. Ça pourrait être chouette.
Un Français qui s'exporte très très bien avec ce Vin Diesel et cette franchise. C'est devenu une sorte d'objet, quoi. Fast and Furious.
C'est un jean.
Et l'étranger, Jean-François Piège. Quand on est un chef comme vous, forcément, les frontières françaises sont peut-être un peu petites, parce que vous avez une clientèle qui vient du monde entier dans vos restaurants.
Depuis peu, ça y est, ils sont là.
Ouais.
Il y a vraiment beaucoup de touristes à Paris.
C'est relancé.
Mais là, la question, c'est l'inverse. Est-ce que vous allez cuisiner?
Alors,
j'ai beaucoup cuisiné à l'étranger, et probablement que dans les mois qui arrivent, on va avoir notre première ouverture à l'étranger et à Taïwan.
Génial. Qu'est-ce qui détermine tel endroit ou plutôt qu'un autre? Pourquoi pas
l'argent? Je travaille pas à la radio, moi, monsieur. Non, en fait, j'étais à Taïwan. C'est une collaboratrice qui a travaillé avec moi au Crayon, qui avait monté un restaurant, qui me dit j'aimerais bien qu'on fasse un repas à quatre mains. J'y vais. On reçoit un mail.
Vous y allez pour un dîner?
Pour un dîner. Et on reçoit un mail. Donc on fait un repas à quatre mains, c'est-à-dire qu'on fait un repas ensemble sur plusieurs jours. Et on reçoit un mail de Taïwanais qui étaient venus manger chez nous et qui nous disent, on a adoré ce que vous proposez, on aimerait bien faire ça à Taïwan, mais dans une version différente.
Ce sont des investisseurs à ce moment-là qui vous disent
absolument.
Ça.
Absolument.
D'accord.
Et des amoureux de la cuisine. Et je prends une voiture.
À Taïwan.
Non, j'étais à Taïwan.
Ah, vous étiez encore.
J'étais dans une petite ville à côté et je vais visiter l'endroit. Le Covid est passé par là, ça a pris beaucoup de retard et normalement ça devrait arriver dans les mois qui arrivent.
Alexis?
Vous parliez en début d'émission de la transversalité de vos activités. Et est-ce que c'est pas ça pénaliser au regard de la profession que de faire tellement de choses à la fois qu'on se demande finalement si vous êtes derrière les fourneaux, et etc. Quand vous dites par exemple que vous cherchez la troisième étoile...
Il ne peut pas être derrière tous les fourneaux, c'est
oui,
sûr.
Non, mais voilà, justement, le fait d'en faire énormément, est-ce que... Enfin, j'imagine que vous êtes très bien organisé, mais quand même, parfois, on en est à se demander si le business ne prend pas le pas sur la,
sur la cuisine. Moi, mon business, c'est faire de la cuisine.
Ouais.
Donc, en fait, je fais de la cuisine tous les jours. Je pense que l'important, c'est de faire tout ce qu'on fait, c'est avec la plus grande honnêteté. Que certains soient agacés, je peux le comprendre. Il y en a qui aiment, donc c'est ce qui m'importe.
Parce que moi, je suis allé de nombreuses fois chez KFC. Le vieux mec, on le voit jamais.
Colonel Sanders. Bah tiens, justement, Tom, t'as parlé, c'est ton tour. Voici c'est les prix de la semaine. Tom Villa. Quel prix vas-tu décerner cette semaine, Tom ?
Cette semaine, on va décerner le prix de... A priori, ça ne me concerne pas, alors que si, et dans cette catégorie, les nommés sont... Fly
me to the moon. Let me play. La mafia.
Premier nommé il y a quelques jours, le Parlement canadien qui a adopté une loi réglementant les crimes dans l'espace et sur la Lune. En fait, le Canada va participer au lancement d'une nouvelle station orbitale, donc ils se blindent juridiquement et savent qu'un astronaute canadien qui écoute du Céline Dion toute la journée, ça peut créer des conflits. Deuxième nommé, comme Michael Jackson, la barrière de corail australienne qui a subi un blanchiment à 90%. Une bien mauvaise nouvelle, à part pour Éric Zemmour, évidemment.
Catastrophe. Quel enchaînement.
Troisième et dernier nommé, le masque qui ne sera plus obligatoire dans les transports à partir de lundi. Bonne nouvelle, on va enfin retrouver les sourires des gens du métro. Mauvaise nouvelle, on va enfin retrouver les sourires des gens du métro. Et le grand gagnant dans la catégorie du a priori ça me concerne pas alors que si
l'espace. La barrière de corail.
Non, la loi avec les crimes sur la Lune. Ben oui, évidemment. Les députés canadiens donc ont approuvé il y a quelques jours une motion comprenant des modifications du code criminel pour permettre des poursuites concernant des crimes commis sur la Lune ou en orbite. Ben, c'est pas con. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, tu tues quelqu'un, tu pars dans l'espace avec Elon Musk, hop, chat perché, immunité, pas le droit de toucher son père. Bon, ben voilà. Alors oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça fait peut-être un petit peu pouffer de rire certains d'anticiper des lois pour lutter contre les crimes dans l'espace et sur la Lune. Mais n'oublions pas que dans certains pays, on tue encore des gens en les lapidant, en faisant des pétanques avec du gravier sur leur tête. Alors donc voilà, d'anticiper certains crimes, ça peut être bien. Après, que ça vienne de la part des Canadiens, ça c'est autre chose. Parce que je veux dire, c'est quand on est à penser à faire des lois pour l'espace, c'est que t'as fait le tour des tiennes. Non mais c'est super d'anticiper, mais les Canadiens, ils ont deux, trois lois bizarres. Par exemple, au Canada, il y a une loi qui interdit strictement les gens d'enlever un pansement dans un lieu public. Donc tu peux en mettre, ça y a pas de souci, mais tu n'as pas le droit de les enlever.
C'est intelligent.
C'est le but est d'empêcher la transmission de maladies par contact sanguin. Depuis 1985 au Canada par exemple, il est formellement interdit de payer quoi que ce soit en pièces de monnaie si le montant dépasse 10 dollars. Donc autant dire que Fort Boyard là-bas, ça n'existe pas. Il y a une loi au Canada qui interdit de tuer le Yeti. On sait pas s'il existe, mais en tout cas, on n'a pas le droit de le tuer. Donc voilà.
On le protège.
Ah bah on dit le shit, la coke, la MD, mais alors attendez, et le sirop d'érable, ça a l'air bien aussi. Hein. Alors d'un côté, je trouve ça, c'est une bonne nouvelle, c'est vrai de faire tout ça. C'est vrai, en plus, avec les projets d'Elon Musk, SpaceX, etc., on va de partir de plus en plus dans le monde, dans l'espace, et ça risque de partir en sucette. Mais en tout cas, niveau popularité, il y a une place à prendre. C'est vrai, quand tu vois que tout le monde se souvient du premier homme qui a marché sur la Lune, imagine le premier humain qui va buter quelqu'un dans l'espace, c'est un petit pas pour l'homme, mais voilà, non mais c'est super, ça va ouvrir plein de séries. T'imagines les experts dans l'espace, est-ce que vous pouvez me décrire l'agresseur? Il a une combinaison blanche, des cheveux courts, un saxophone, mais c'est Thomas Pesquet. Non mais c'est vrai, les interrogatoires ça va pas être les mêmes. Vous étiez où le samedi 15 mai à 23h? J'étais, alors vous voyez quand vous avez la Terre dans le dos, la grande ours à 9h et le satellite d'Elon Musk à 4, bah j'étais à gauche, voilà. Puis ça va être une galère avec la pesanteur. Attendez, putain, qui a touché au corps, bordel? Voilà,
il y a pas de bouger.
Bah ouais, non, c'est vrai. Mais tout ça c'est des hypothèses parce que ça se trouve le premier crime a déjà eu lieu. Nous sommes le 3 novembre 1957. Un mois après le succès du lancement Sputnik 1, place maintenant au lancement de Sputnik 2. Dans la course à la conquête spatiale, opposant les Américains aux Russes, les Ruskov, dans un souci de péter la gueule aux Amerlocs, décidèrent d'envoyer un chien dans l'espace, son nom Laika.
Eh ouais.
Une chienne, bâtard de 3 ans et demi. Le lancement fut une réussite. Problème, les Russes n'avaient pas prévu de voyage retour pour Sputnik 2. Laika mourut environ 5 heures après avoir été lancée hors de terre. Et tout ça, c'est de la faute des Russes. Une fois de plus. Comme le disait Marx, Karl, hein, pas Thierry, si l'histoire ne se répète pas, elle bégaye vachement quand même.
Merci beaucoup, Fabien.
Et Tom Villa, tu seras ce soir à Nantes à la Cité des Congrès.
Exactement. Ah. Aux recettes de Jean-François Piège, zéro viande, zéro poisson, chez Hachette, dans ce formidable et beau livre, parce que c'est vrai que les photos, ça ouvre l'appétit. Ouais, c'est un bel objet.
Merci.
Il y a ces légumes sautés avec l'épinard, la cocotte minute, vous l'avez dit tout à l'heure. Les outils sont aussi importants que les produits. Essentiellement, les poireaux en papillote, les fleurs de courgette en beignet, courgette et aubergine tempura, ça donne tellement envie et ça a l'air relativement simple à faire et rapide.
Oui, je suis d'accord.
Ouais. Question au chef, quand on n'a pas de cocotte minute, parce que ça prend un peu de place, parce qu'on vit à Paris, parce que les placards sont pas gros, comment est-ce qu'on peut transformer, parce que l'idée de la cuisine, c'est aussi de trouver un peu des équivalences.
La cocotte minute, il n'y a pas d'équivalent, parce que c'est justement un élément pour gagner du temps.
Zéro viande, zéro poisson, c'est chez Hachette, signé Jean-François Piège. Des excuses à présenter, Morgane Cadignan.
Oui, désolé pour Jean-François Piège, qui après être venu 14 fois dans l'émission, espère toujours finir ses phrases ou ses anecdotes. Alors, on va mettre ça sur le compte de l'optimisme, ou au pire de l'utopie. Et désolé aussi pour Jean-François Piège, qui après avoir acheté 5 euros une asperge, s'est fait revendre par Nagui un stylo Bic bleu pour 24 euros. Et il vient de m'envoyer un texto là pour me dire qu'il a un ghetto blaster à vendre, 3000 euros, une amitié, c'est pas cher.
Mais j'ai aussi un lecteur de cassette aussi, qui m'était revendu sur une.
Voilà. Zéro viande, zéro poisson, merci Jean-François Piège. On n'a pas parlé des projets, est-ce qu'il y en a un essentiel ou...
Si, on a parlé de Taïwan qui va arriver et puis on travaille.
D'accord.
Notre projet, c'est faire plaisir à nos clients tous les jours dans nos restaurants.
Et c'est réussi, et ce livre est réussi et ouvre l'appétit. 50 recettes végétales et gourmandes, c'est important de le rajouter. Lundi, Déborah François et Raphaël Personnas seront nos invités pour parler de Cannes et des
films qu'ils ont fait Adami. Pour les talents Adami.
Exactement, des courts-métrages qu'ils ont réalisés pour les talents Adami. On en avait déjà un tout petit peu parlé avec Pascal Arbillot dans le courant de la semaine. Passez une bonne journée et surtout un très bon week-end.
Merci.